Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Aglété, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons pendant 8 jours à un voyage dans le passé de la région. À travers une série la plus longue jamais proposée par Podcastine, nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Marie Diaz Valderrama. Épisode 5, 1936-1945, une longue traversée du désert.
Les rires des enfants qui jouent et les bières que l'on trinque sont les bruits que j'entends aujourd'hui à l'approche de la caserne Niel, à Bordeaux. L'architecture militaire de ces lieux pourrait les faire passer pour un entrepôt abandonné. Le raillis des anciens trains, des marchandises, me laisse deviner qu'autrefois, les bruits de ces bâtiments étaient un peu plus sinistres. C'est le professeur David Escobar, avec son parcours de républicain exilé, qui m'explique que l'endroit a servi à loger environ 3000 républicains espagnols exilés qui ont participé à la construction de la base sous-marine. Un épisode auquel Podcastine avait consacré son tout premier numéro.
La caserne Niel, qui se situe sur la rive droite de Bordeaux, elle a été, comme de nombreux bâtiments, elle a été réquisitionnée bien sûr par les autorités allemandes, mais elle a été affectée à une fonction particulière, à ce qu'on appelait l'organisation TOT. L'organisation TOT, c'était une organisation militaire dont la fonction était de réaliser tous les travaux concernant ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique. Donc, il s'agissait notamment de fortifications tout le long de la côte pour parer à n'importe quelle tentative de débarquement, d'invasion. Mais on lui a aussi confié une mission particulière, comme tout le long aussi de la côte française, c'est celle de réaliser, d'édifier des bases sous-marines, de manière à ce que les sous-marins allemands puissent intervenir plus rapidement sur la zone atlantique, au lieu d'être obligé de toujours rentrer en Allemagne. Et donc, cette caserne Niel, donc on y a affecté à peu près 3000 ouvriers. C'était en grande partie des ouvriers donc républicains espagnols, qui n'avaient pas vraiment le choix. Ils étaient obligés de travailler pour l'organisation TOT, puisque de toute façon, la loi du 27 septembre 1940, qui instituait les groupements de travailleurs étrangers, en vertu de cette loi, donc, les travailleurs étrangers, et notamment les Espagnols, donc, étaient obligés de s'enrôler, ils étaient obligés d'être encadrés, et donc, très naturellement, entre guillemets, ils ont été livrés aux autorités allemandes. Donc, à partir de 1942, si je ne me trompe pas, on a commencé donc à bâtir le grand chantier, l'immense chantier titanesque de la base sous-marine. Et donc, les ouvriers devaient se lever tous les matins à 4 ou 5 heures. Et donc, ils devaient partir dans un premier temps à pied. Donc, depuis la caserne Niel, ils devaient traverser le pont de pierre et se rendre tout au bout du quai, jusqu'au quai de Bacalan, sur le site de la base sous-marine. Donc, c'était des conditions, bien sûr, très difficiles, hein, des conditions de travail forcées. C'était 12 heures de travail par jour. Alors, un salaire qui était assez symbolique, une alimentation notoirement insuffisante également.
Comme la caserne Niel, la base sous-marine est aujourd'hui un lieu de rencontre culturelle pour la plupart des Bordelais et les bâtiments les plus visités par les touristes ces dernières années. Beaucoup d'entre eux, des Espagnols très souvent, passent devant sans connaître les secrets que cachent ces mammouths de béton. Selon des témoignages, de nombreuses ouvrières ont été ensevelies dans le béton, tombées dedans lors d'accidents du travail ou ont été même poussées par leurs supérieurs. La construction de la base sous-marine reflète, comme d'autres lieux de mémoire en France, la traversée du désert qui a signifié pour des centaines de milliers d'Espagnols leur arrivée dans ces pays. Les républicains espagnols sont entraînés dans une autre guerre, dans laquelle ils vont jouer également un rôle important. Geneviève Dreyfus-Armand est l'une des historiennes françaises qui a le plus travaillé sur la question de l'exil des républicains et de leur engagement dans la résistance et la lutte contre les Allemands.
Les Espagnols, ils arrivaient dans le pays des droits de l'homme. Ils s'attendaient non pas à être reçus dans des palaces, mais au moins à rencontrer une certaine solidarité. Or, ils se retrouvent parqués dans des camps, considérés comme des étrangers indésirables, comme des suspects, des malfaiteurs. Donc, ils sont désorientés pendant plusieurs mois. Et comme les Français, ils sont désorientés, ils ne vont pas s'engager immédiatement dans la résistance. Sauf que chez eux, il y a le sentiment très fort que l'ennemi qui se trouve en France et qui occupe la France est le même que celui qu'ils ont rencontré en Espagne. Et ils se disent que s'ils aident les Français à se libérer du nazisme, les Français vont les aider ensuite à libérer l'Espagne du franquisme.
Les caractères clandestins de la résistance rend difficile de donner un chiffre exact du nombre d'Espagnols qui ont participé à ces actions de combat. Mais on estime qu'au moins 10 000 d'entre eux ont été directement impliqués, bien que de manière différente.
Les républicains espagnols ont participé de multiples manières à la guerre contre l'Allemagne qui avait effectivement déclaré la guerre à la France. Ils auraient souhaité, eux, réfugiés, parqués dans des camps, ils auraient souhaité pouvoir intégrer des unités régulières de l'armée française, comme cela a été le cas pour les Polonais ou les Tchèques, qui, à la suite d'accords bilatéraux antérieurs à la guerre, ont pu constituer au sein de l'armée française des unités uniquement polonaises ou tchèques. Mais pour le cas des Espagnols, il n'y avait pas eu d'accords bilatéraux préalables, et la France ne tenait pas tellement à ce que des républicains espagnols, qui étaient précédés par cette réputation de dangereux rouges diffusée par le franquisme, ne souhaitaient pas tellement les constituer des corps autonomes espagnols dans l'armée. Mais ils avaient la possibilité de s'engager soit dans la Légion étrangère, ce qui ne convenait pas du tout aux républicains espagnols, qui gardaient un mauvais souvenir de la Légion, del Tercio, qui avait effectué de nombreuses répressions de mouvements sociaux en Espagne, et ils ne souhaitaient pas être des mercenaires. Par contre, il y avait une autre possibilité qui leur était offerte, c'était de s'engager pour la durée de la guerre dans des régiments de marche de volontaires étrangers, les RMVE. Et ils se sont engagés assez nombreux dans ces régiments pour la durée de la guerre, où ils ont côtoyé beaucoup d'autres étrangers réfugiés en France. Les effectifs des RMVE étaient constitués pour moitié de républicains espagnols et pour autre moitié de juifs de différentes nationalités, allemands, autrichiens, polonais. Alors ça a été la première forme de participation à la guerre. À la guerre mondiale, aux côtés des alliés, l'engagement dans des formations militaires. Ensuite, il y a eu peu à peu, après l'occupation de la France, la constitution de réseaux d'évasion clandestins au travers des Pyrénées.
La toute première forme d'action résistante des Espagnols après la retirada, alors que les partis espagnols cherchent à se reconstituer en exil, c'est le développement des réseaux de passage des Pyrénées.
Ce sont les alliés, les services secrets alliés, anglais, américains, belges, qui se sont adressés à eux pour qu'ils soient des passeurs d'hommes au travers des Pyrénées. Et ces réseaux ont commencé à s'installer très tôt, dès la fin 1940, et ils ont été surtout animés par des républicains espagnols qui acceptaient de travailler avec les services secrets alliés, et c'était essentiellement des anarcho-syndicalistes, des militants du Parti ouvrier d'unification marxiste, le PUM, qui avait été interdit en Espagne en 1937, et aussi des services secrets basque. Donc, trois tendances qui, par la suite, n'ont pas eu la possibilité de revendiquer cette action. Alors, on relève quelques noms, par exemple, Francisco Panzan Vidal et sa sœur, Pilar Panzan, tous les deux militants de la CNT, qui ont fait passer de France en Espagne, aussi bien des aviateurs alliés, des juifs qui voulaient échapper à la politique antisémite de Vichy, ou faire passer également en Espagne des résistants qui, en passant par l'Espagne, pouvaient rejoindre le Portugal et ensuite Londres, où le général de Gaulle formait effectivement une armée de la France libre. La deuxième forme de résistance a été l'organisation de maquis. Comment cela s'est produit? C'est que le gouvernement de Vichy a fait, comme la Troisième République auparavant, a organisé des groupements de travailleurs étrangers qui étaient cantonnés dans certaines régions pour, par exemple, exploiter des mines dans les Cévennes, pour travailler dans des chantiers forestiers dans les Pyrénées, travailler à la construction de barrages hydroélectriques dans le Massif central. Donc c'était des cantonnements de groupements de travailleurs étrangers qui, paradoxalement, ont favorisé la constitution des premiers noyaux clandestins de maquis. Parce que dans les maquis se sont formés très rapidement, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans les Cévennes, des noyaux de protection et de défense dans ces cantonnements de GTE. Et ça a été l'embryon des premiers maquis, souvent antérieurs d'ailleurs à la constitution des maquis français, qui n'apparaissent finalement que début 1943. Et là, ça a été un petit peu antérieur. Les Espagnols ont aussi participé à des mouvements français de résistance dans de très nombreuses régions, hein, que ce soit dès 1940 en zone occupée, notamment dans la région parisienne. Ils ont payé un lourd tribut en arrestation, en déportation, en exécution.
En 1944, ce sont les républicains espagnols qui ont libéré une grande partie du département de l'Ariège, notamment la ville de Foix. Ce sont aussi des Espagnols qui sont les premiers à entrer dans Paris libéré. Le 24 août 1944, la 9e compagnie de la 2e division blindée du général Leclerc, qu'on appelle la Nueve, est composée de 160 hommes, dont 146 républicains espagnols, qui avaient combattu lors de la libération de l'Afrique du Nord. À Bordeaux, les photos de la libération montrent parmi les soldats qui marchent dans les centres-villes les bataillons Guernica et Libertà, composés des militants nationalistes basques et des socialistes et militantes anarchistes. Souvent, ils réussissent à échapper au groupe de travail pour rallier la résistance ou l'armée française de la France libre. Les pères de Progrès Trabé, Emilio Trabé, faisaient partie du bataillon Libertad, qui libère des Allemands les fronts du Médoc. Accompagné de sa femme, Esmeralda Laborda, il raconte le parcours de son père.
Il a été emmené par les gendarmes à Bordeaux pour travailler à la base sous-marine. C'est là où il travaillait, à la caserne Niel. Il travaillait là, et puis après ils allaient dormir à la caserne Niel. Puis après, à un moment donné, il a réussi à s'enfuir et il a rejoint le groupe qui était en train de créer le front
le groupe Libertà.
Oui, le groupe
qui était en cours de constitution.
Oui, en cours de constitution.
Après, c'était le front du Médoc, mais
il oui,
y a eu tout un épisode où, en fait, ils sont... Le bataillon Libertà, qui est parti du Lot-et-Garonne et revenu, est arrivé sur Bordeaux. Oui. Et quand Bordeaux a été libéré, ton père nous disait oui. qu'il a été, avec ses camarades là, du bataillon Libertà, il a été mis en campement, un campement au Bousca.
Oui, au Bousca. Ils ont passé l'hiver... Oui, parce qu'il y a des photos où on les voit dans la neige au Bousca. Donc, et après, c'est là où, au printemps 2045, quand Bordeaux était déjà libéré des Allemands, certains Allemands s'étaient repliés sur le front du Médoc. Et c'est là où ils ont essayé à la fois de déminer... et de déloger les Allemands qui restaient là.
Oui, les Allemands s'étaient retranchés dans dans les blocos.
Oui,
et
voilà.
Ton père nous disait que ils avaient, après, quand ils ont été délogés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des provisions pour tenir un an ou deux. Et ils avaient également énormément de matériel médical qu'ils avaient pris à l'hôpital Saint-André. Les Allemands étaient vraiment très, très bien organisés
pour tenir
pendant très longtemps.
Oui.
Et ils ont tenu, c'est vrai qu'ils ont tenu assez longtemps, jusqu'au mois
de mai.
Parce
qu'apparemment, ils ne savaient pas où les Anglais ou les Américains pourraient débarquer. Donc, ils contrôlaient toute la côte pour essayer de voir ce qu'il en serait, quoi, de ce débarquement.
Julio Carrasco, le père de Marina Carrasco, faisait partie de la garde d'assaut, le corps de police créé en 1932 par la République. En France, il a participé aussi dans la lutte contre les Allemands.
Estuvo en un maquis, en dos maquis.
Il était dans un maquis, en fait dans deux maquis, dans les Landes. Après, il fut appelé à participer dans un maquis du Gers, et plus tard, de nouveau, dans la poche du Médoc.
En 1944, estuvo otra vez, estaba aquí cerca de Burdeos, lo que se llamaba la poche du Médoc. El Médoc es esa zona. Y había ahí todavía una, había varios batallones. Entre les quels il y avait un espagnol, des espagnols.
Là-bas, il y avait plusieurs bataillons, et parmi eux, des bataillons espagnols, le Guernica avec des Basques et le bataillon Libertad. Mais mon père faisait partie de la résistance en tant que commandant.
Mon père avait été dans la résistance française. Ils les démobilisèrent en 1945.
Beaucoup d'entre eux participaient à la résistance. Ils furent démobilisés en 1945. Et entre-temps, les Espagnols attendaient qu'il se passe quelque chose. Quelque chose, une action politique. Ils pensaient que les Alliés allaient chasser Franco. Comme Franco avait bénéficié de l'aide des Italiens et des nazis, les Alliés allaient le chasser et les réfugiés pourraient revenir. C'est pourquoi ils pensaient, et c'était presque naturel, que Franco serait chassé. Ce fut pour eux une grande déception. Je me rappelle très bien qu'après la guerre, dans les années 44 ou 45, je me rappelle très bien qu'un soir, mon père et ma mère et d'autres réfugiés à la maison faisaient des paris. Ils disaient, je me rappelle cela parfaitement, pour septembre, on sera de retour en septembre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment.
Malgré les promesses des uns et des autres, aucune des démocraties et puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale est venue en aide de l'Espagne démocratique. Geneviève Dreyfus-Armande.
Le régime de Franco convenait parfaitement aux alliés anglo-saxons, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis. L'Union soviétique savait qu'en Espagne, le Parti communiste était extrêmement minoritaire, donc ça ne l'intéressait pas non plus de changer quoi que ce soit. Et quant à la France était... Elle a soutenu, entre 1945 et 1948, elle a soutenu véritablement les démarches des républicains espagnols, aussi bien les démarches diplomatiques auprès de l'ONU, qui a été créée en 1945. Donc les gouvernements français va plaider auprès de l'ONU pour qu'il y ait une condamnation du régime franquiste qui va être signée, mais elle sent qu'elle est isolée, que ni les Anglais ni les Américains ne sont prêts à une démarche concrète pour intervenir en Espagne. Alors, il y a une note tripartite qui est adoptée là par les trois pays, France, Grande-Bretagne, États-Unis, mais elle reste lettre morte. Et l'Union soviétique n'a absolument pas envie de changer quoi que ce soit. Elle sait qu'elle ne maîtriserait rien. Et l'Espagne n'intéresse plus, depuis longtemps. Ce qui l'intéresse, elle, c'est l'Europe centrale et orientale, qu'elle veut dominer. Et elle y arrive parfaitement. C'est là, à ce moment-là, que se créent des démocraties populaires en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. L'Espagne n'intéresse plus, c'est du passé. Toujours pareil, entre 1944 et 1948, lorsque la France était dirigée par d'anciens résistants, il y a eu de très nombreux hommages décernés à des républicains espagnols dans plusieurs régions du sud-ouest, aussi un peu moins en région parisienne, mais surtout dans le sud-ouest où les Espagnols étaient très nombreux, les Espagnols exilés étaient très nombreux. Mais un événement important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de 1947, la guerre froide éclate. Et le problème n'est plus d'honorer les résistants, dont beaucoup étaient effectivement, enfin, ceux qui apparaissaient le plus communistes. Le Parti communiste français, d'ailleurs, ne fait plus partie du gouvernement. Et à partir de ce moment-là, toute la politique française, comme celle des États-Unis, comme celle de la Grande-Bretagne, s'oriente vers la lutte contre le communisme. Donc, les républicains espagnols vont connaître une très longue traversée du désert. Ils vont se retrouver isolés pendant des années.
À partir de 1947, les Espagnols commencent à comprendre qu'ils ne vont pas trouver de l'aide pour faire tomber Franco. Certains se tournent alors vers des actions clandestines. Les partis communistes deviennent un acteur majeur pendant les années du franquisme, justement grâce à cette activité des luttes clandestines. Dans les années 50 et 60, il va continuer à attirer des jeunes Espagnols nés dans l'après-guerre.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Pour les républicains qui ont fui la guerre, c'est la diaspora. Les réfugiés vont chercher à faire leur vie en France, mais aussi en Angleterre, au Mexique, en Argentine, aux États-Unis et dans de nombreux pays de l'Amérique. Des pays souvent marqués par des lieux devenus sites de pèlerinage. C'est le cas des Collures, où se trouve la tombe d'Antonio Machado, le grand poète espagnol qui va mourir dans ces pittoresques villages de la Méditerranée française, seulement quelques jours après avoir traversé la frontière dans de très mauvaises conditions. À Montauban, dans les Tarn et Garonne, la tombe du dernier président de la Deuxième République espagnole, Manuel Azaña, est aussi un lieu de recueillement pour de nombreux Espagnols, comme explique Jean-Pierre Amalric, historien et spécialiste de l'Espagne et président de l'association Présence Manuel Azaña.
Manuel Azaña a été dans le personnel politique la principale figure qui a incarné la Seconde République, au moins à deux périodes, c'est-à-dire au début où il sera très vite chef du gouvernement, après la proclamation de la République et une période de gouvernement provisoire, là on est en 1931, et il va rester au pouvoir pendant 2 ans, à la tête d'un gouvernement qui va engager un nombre important de réformes qui vont chercher à moderniser la société espagnole qui était vraiment enquistée dans des pratiques et des réalités du 19e siècle. Voilà, donc un président réformateur. Après, il va tomber, il aura des années de passage dans l'opposition, et puis il va revenir en 1936, être de nouveau à la suite d'élections démocratique, il accède au pouvoir et il va être élu président de la République. On est en mai 1936, le soulèvement éclate en juillet, et donc de juillet 1936 au début de 1939, c'est lui qui est président de la République et qui donc incarne une légitimité républicaine qui est prise d'assaut par les militaires et par les puissances totalitaires. Et donc, là, il est un symbole, si vous voulez, de légitimité démocratique. Voilà.
Azaña quitte l'Espagne et arrive en France à pied dans ces mois de février de 1939, accompagné par les chefs de la Generalitat de Catalogne, Lluís Companys, et d'autres hommes politiques. Il est déjà usé et profondément traumatisé, mais il va déployer ses dernières forces pour essayer d'amener les gouvernements français à une démarche humanitaire pour garantir, si possible, la vie de ses compatriotes républicains. Toutes ces démarches n'aboutiront pas, et quand il considère qu'il n'a plus les moyens d'assurer les fonctions qui sont les siennes, enfin en février 1939, il démissionne de la présidence de la République. Après quelques mois passés en Haute-Savoie, il s'établit au Pilat, avec l'ensemble de sa famille. Mais Hassania est à ces moments un homme malade. Au Pila et à Arcachon, il reçoit des soins médicaux pour une anomalie cardiaque grave. Un état qui se dégrade en parallèle de l'offensive allemande en mai et juin 1940.
Cette offensive allemande, elle se fait sur la façade atlantique. Donc, elle arrive à Bordeaux. Et à ce moment-là, le préfet de la Gironde, apparemment, fait savoir à Hassania que sa sécurité ne peut plus être assurée si les Allemands arrivent et qu'il va falloir chercher une autre résidence. Et on facilite son départ en ambulance, mais on ne sait pas vers où. Et là, on est à la fin du mois de juin 1940. Il quitte donc le Pila, vraisemblablement autour du 25 juin, pour s'arrêter 3 jours vraisemblablement à Périgueux, en attendant que les autorités françaises l'aiguillent quelque part, parce que c'est à ce moment-là aussi que la France est coupée en deux par la ligne de démarcation, et évidemment, il ne souhaite pas que il se retrouve dans une zone occupée par les Allemands. Donc ce serait une zone non occupée, comme on l'appelle à l'époque, qu'il va chercher. Et difficilement, il lui sera proposé un accueil très précaire, d'ailleurs, à Montauban.
Hassania et sa famille sont hébergés dans un appartement avec d'autres réfugiés espagnols. Mais il est suivi de près par la Gestapo et des agents franquistes de l'ambassade espagnole. C'est à Montauban qu'il apprend que son beau-frère, Cipriano Rivas Chérif, ancien consul général d'Espagne à Genève et représentant de l'Espagne à la Société des Nations, qui est resté au Pila, a été enlevé par un commando allemand de la Gestapo. Le monde s'effondre sur les pieds d'Emmanuel Hassania et sa femme. Ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Après la signature de l'armistice entre les autorités allemandes et les représentants du gouvernement français du maréchal Pétain, les autorités franquistes envoient des demandes d'arrestation et renvoient en Espagne de tous les dirigeants républicains réfugiés en France. Pedro Urraca est le nom d'un des policiers espagnols qui chasse ces dirigeants, comme Lluís Companys, arrêté en Bretagne en août 1940 et qui sera par la suite fusillé en Espagne. Urraca, qui pour la résistante Antoine Sache pourrait être aussi derrière l'arrestation en 1943 de Jean Moulin, cherche à tout prix d'arrêter Hassania. Ce qui pousse l'ambassade mexicaine à s'installer dans l'hôtel du Midi, à Montauban. Là-bas, Hassania va passer les 2 derniers mois de sa vie.
Et en fait, c'est sous la protection, en septembre-octobre, de la République du Mexique qu'Hassania vit ses derniers jours et échappe ainsi, sans doute, au projet d'enlèvement qui venait, là encore, du régime de Franco. Car il est probable, on en a plusieurs indices, que Franco et son ambassadeur auraient souhaité enlever Hassania, comme on avait enlevé le président de la Généralité de Catalogne, Companys, et d'autres figures, le ministre socialiste Sugata Goitia, et d'autres encore, pour les exécuter après un procès sommaire. La maladie d'Hassania et la surveillance des Mexicains a fait obstacle à cet enlèvement et c'est donc de maladie et dans son lit qu'il meurt dans la nuit du 3 novembre 1940. Plusieurs témoignages concordent. Hassania, dans ses derniers mois, aurait dit à son entourage « Je veux être enterré là où je vais tomber », c'est-à-dire en exil. Il ne se faisait plus d'illusions.
Jean-Pierre Amalric me propose d'aller voir les lieux où repose Hassania, au cimetière de la ville.
Alors voilà la losa, voyez, initiale de sa veuve. Et ça, c'est nous qui l'avons fait ajouter pour mieux l'individualiser. C'est l'œuvre d'un artiste local. Et puis on a fait aussi un peu, on a obtenu, parce qu'on n'arrivait pas à mettre les jours de célébration, à mettre les fleurs, etc.
Mais, de fleurs, vous voulez dire,
les jours de célébration, c'est couvert, ça déborde.
Et je vois aussi qu'il y a plusieurs plaques, parce qu'il y en a une d'Almeria.
Ah, mais il y en a toujours qui arrivent.
Il y a la dernière du coup du gouvernement espagnol, oui, qui date de 2019
Et ça, c'est quand il y a eu la première visite de Pedro Sánchez.
Oui.
qui est revenu après en 21 avec Macron.
Oui. Voilà. Et il y a cette phrase qu'il a dit, non ? Paix, pitié, pardon, qui est...
Oui, alors ça, c'est plus ancien. Paz, piedad, perdón. C'est le discours de Barcelone, le 18 juillet 1938. Ce qui se termine par ces mots « paz, piedad, perdón ». De même que la tombe de Machado est à Collioure, celle d'Azaña est à Montauban, et toutes deux symbolisent et pérennisent le souvenir de l'exil des démocrates espagnols à la suite de la guerre civile. Je pense que cette reconnaissance a été importante. Elle a été accompagnée aussi par celle du président de la République française. Et là aussi, c'était la première fois quand même que les autorités françaises, j'allais dire, prenaient conscience du symbole qu'était la sépulture de Azaña à Montauban.
Pour les combattants, il faudra attendre 2014 pour qu'un président de la République française reconnaisse le rôle des républicains espagnols dans la résistance. Quand on parle de l'exil républicain, on peut avoir une tendance à réduire tout dans un même groupe, alors qu'en réalité, les différences politiques, les clivages qui se sont vus au moment de la guerre civile vont se perpétuer en France. C'est pourquoi la mémoire des réseaux des passages des Pyrénées n'est pas celle de guerrilleros et vice-versa. Il n'y a pas une mémoire unique. Ce qui est évident, c'est que la présence des centaines de milliers d'Espagnols en France, et notamment dans les Sud, a laissé des traces d'importance. Les chiffres des réfugiés parlent de 140 000 réfugiés officiels en début des années 50. Mais avec la migration économique de l'après-guerre, en 1960, on compte plus de 600 000 Espagnols en France, la plupart dans les Sud. Geneviève Dreyfus-Armand et Jean-Pierre Amalric sont d'accord sur l'apport culturel majeur que cette communauté a eu.
Il y a vraiment une sorte d'hispanisation de ce grand Sud-Ouest, notamment de la région de Toulouse et de celle de Bordeaux, mais aussi de Perpignan, de Montpellier. Parce que pendant cette traversée du désert, il y a quelque chose qui a été très important, c'est cette maintenance d'un travail politique, même s'il se réduisait à l'écriture de journaux, à l'écriture de textes, mais aussi à l'organisation de spectacles, à l'organisation de réunions conviviales, où se mêlaient toujours le politique et le culturel. C'est-à-dire on se réunissait pour se retrouver, parce qu'en exil, tous les exilés dans le monde essaient de se retrouver entre eux, de retrouver les personnes qui ont eu la même histoire. Et dans ces fêtes, dans ces meetings, il y avait un aspect politique, un aspect culturel, et puis on récoltait aussi des fonds pour les opposants restés en Espagne. Donc ça a été une très très longue marche de perpétuation du souvenir de ce qu'avait été la période démocratique en Espagne.
Il faut se rappeler ce qu'a été l'imprégnation très forte de l'exil espagnol dans le spectacle ou dans la littérature. Des gens comme Paco Ibáñez, par exemple, ont eu des publics énormes pendant de longues années. Il n'était pas le seul. Étienne Rodagil, natif de Montauban, a été aussi un des principaux artisans du showbiz musical en France. Voilà. Donc, dans la littérature, quand même, le rôle de passeur de quelqu'un comme Semprún, l'audience qu'a eu pendant longtemps Michel del Castillo, bon, il est peut-être un peu oublié, mais enfin, il a eu, et d'autres écrivains encore, font que cet exil espagnol a été vraiment présent dans les consciences des lecteurs et des spectateurs français. Ça, je crois que c'est un point qui est négligé, mais qui est fondamental.
Une des principales comédiennes françaises est Maria Cazares. Or, Maria Cazares, qui connaissait mal le français lorsqu'elle est arrivée en exil à Paris, l'a appris. Ça a été des années d'apprentissage difficiles, mais elle est devenue l'une des principales comédiennes françaises. Et elle était toujours fière de porter ce titre d'exilée et de défenseuse des valeurs des valeurs démocratiques, républicaines, espagnoles.
Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos,
camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria.
Le chanteur Paco Ibáñez dit que la langue est l'âme des peuples, et l'alma d'un pueblo. Dans la patrie qui était leur exil, les républicains ont appris à leurs enfants le vers des poètes comme Antonio Machado. Dans la violence d'une histoire imposée par la dictature pendant 40 ans, du silence répandu parmi les vaincus, les chansons et les poèmes sont devenus une arme contre l'oubli, et la culture, un cri de résistance.
Subitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Merci Maria Diaz-Valderrama. C'est la fin de cet épisode de podcasting L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Hernier et Gabriel Taïeb. Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.